Les séminaires du Collège de France.
Donc une nouvelle fois, enfin comme je l'ai déjà dit juste à la fin du cours, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir Pascal et qui travaille au laboratoire de physique des solides à Orsay, donc maintenant l'université de Paris-Saclay. Et donc Pascal, on avait toujours eu envie de travailler ensemble, on n'a jamais réussi vraiment complètement à travailler, mais je vous ai parlé beaucoup de nanotubes de carbone. Pascal a beaucoup travaillé sur les nanotubes d'immogolite et je pense que tu vas en parler.
J'ai aussi parlé des carbones.
Il y a aussi des carbones, donc c'est parfait. Et surtout, c'est vrai que tous ces grands instruments, c'est des outils assez impressionnants parce qu'ils arrivent en RX ou en neutrons à aller jusqu'à les tailles moléculaires, qui sont exactement les tailles qui nous intéressent, notamment pour la structure de l'eau à l'intérieur. Donc c'est des informations extrêmement fines. Qui peuvent être utiles pour le transport, ils sont très complémentaires. Donc ça me paraissait important que Pascal vienne présenter ça pour avoir un point de vue complémentaire de celui que j'ai apporté. En tout cas, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Lydric. C'est surtout un plaisir pour moi. Donc, effectivement, vous allez voir pourquoi on n'a pas réussi à vraiment travailler ensemble. C'est parce qu'on ne travaille pas sur la même taille d'échantillon. Et donc, oui, je suis chercheur CNRS, donc au Labo de physique des solides de l'Université Paris-Saclay. Et je vais vous parler d'eau confinée dans des nanotubes, de nouvelles phases de dynamique et de diffusion, mais de l'aspect échantillon macroscopique. Je présenterai des résultats de la littérature et puis aussi des résultats obtenus avec mes collaborateurs, que je remercie déjà ici, donc au laboratoire pour les aspects surtout des diffusions des rayons X, Erwan Penaud et Stéphane Rouzière. Stéphane Rolls à l'ILL pour tous les aspects diffusion des neutrons et Gilberto Teobaldi pour certaines simulations numériques. On a aussi collaboré sur la RMN avec Pierre Lévitz, mais là je ne vous montrerai pas de résultats. Et enfin, je voudrais remercier les trois doctorants qui ont participé aux travaux que j'ai présentés, Mohamed Salah Amara, Geoffrey Monet et Ariana D'Angelo. Donc, attendez, je vais mettre un minuteur parce que je ne me suis pas chronométrée. Donc, oui, donc mon plan va être le suivant. Après une introduction générale, je vais parler de l'eau dans les nanotubes de carbone, hydrophobes, et de l'eau dans des nanotubes d'immogolite qui sont hydrophiles, avant de conclure. Donc, d'abord, quand on étudie des fluides aux échelles nanométriques, on peut avoir deux types d'approches. Donc, celle sur d'étudier des nanocanaux individuels, et ça demande souvent de développer des dispositifs expérimentaux originaux, comme celui-là qui avait été réalisé par Alessandro Siria et Lydric Bocquet, avec vous pouvez étudier le courant au travers d'un nanotube unique. Et l'autre aspect, l'autre façon de faire, c'est l'approche macroscopique. Donc de travailler par exemple sur cette poudre de nanotubes de carbone, donc on a des milliards de nanocanaux, et on utilise des méthodes beaucoup plus standards comme la diffusion des rayons X, la spectroscopie neutronique et la spectroscopie infrarouge pour les résultats que je vais vous montrer. Donc quand on fait des expériences de physique, on doit se demander à quelle échelle on va travailler. Donc pour les rayons X, la diffraction des rayons X, les échelles spatiales, c'est entre 1 et 100 angstroms, donc on regarde les structures atomiques et dans le cas qui nous intéresse, les structures atomiques et les structures des milieux poreux. Si maintenant on s'intéresse à l'aspect inélastique, transfert d'énergie, donc on utilise beaucoup la diffusion inélastique des neutrons qui donne accès à pas mal de phénomènes sur une grande gamme d'énergie. Et puis, je vous montrerai aussi des résultats obtenus dans l'infrarouge qui correspondent à ce type de transfert d'énergie. Nos nanocanaux, donc, je m'excuse, c'est un peu sensible. Nos nanocanaux, ce que je vais vous présenter, c'est les nanotubes de carbone, alors que je pense que vous connaissez tous. C'est un feuillet de graphène enroulé sur lui-même. Et selon la façon dont on l'enroule, on définit un vecteur chiral et des indices N et M. Et vous connaissez peut-être moins ces nanocanaux qui sont les nanotubes d'immogolite. Vous pouvez avoir ce feuillet sous-jacent, mais au lieu des atomes de carbone, ici, vous mettez des octaèdres aluminium O6. Et au centre des hexagones, vous mettez des tétraèdres SiO3 ou GaO3. Si vous mettez du silicium, en fait, c'est une argile naturelle. Mais on sait aussi synthétiser ces nanotubes et remplacer le silicium par le germanium. Sur les surfaces internes et externes, en fait, il y a des groupements hydroxyles. Donc on a quelque chose qui est complètement hydrophile. Il y a quelques années, avec Geoffrey Monet, on a proposé une méthode pour déterminer précisément la structure de ces objets qui sont qui ont une stoichiométrie complexe. Je ne vais pas en parler ici, mais c'est un point important, parce que toutes les simulations de dynamique moléculaire qu'on fait maintenant s'appuient évidemment sur cette structure. Alors, toujours dans le cadre d'une introduction générale, donc, ce qu'on va mettre dans les nanocanaux, c'est l'eau. Et j'aime bien cette phrase de Sainte-Gorgi qui dit que l'eau est la substance la plus extraordinaire parce que presque toutes ses propriétés sont anormales. Alors ici, une des raisons pour lesquelles ces propriétés sont anormales, c'est que en fait, l'eau aime être dans un environnement tétraédrique, comme je vous le montre ici, avec des liaisons qui sont les liaisons hydrogènes entre oxygène d'une molécule et hydrogène de l'autre. Et donc, quand on prend le solide, avec cet environnement tétraédrique, en fait, on a une structure qui est très peu dense et qui est en fait moins dense que celle du liquide qui est plus désordonnée et qui a un nombre de moyens de liaisons hydrogènes qui est donc plus petit que 4. Et c'est pour ça que, là, je vous montre une de mes photos de vacances de kayak dans la baie de Disco. C'est pour ça que les icebergs émergent à la surface. Ils sont magnifiques. Bon, parce que le solide est moins dense que le fluide. Et puis, oui. Bien, alors, maintenant, après cette introduction vraiment générale, donc, on peut se poser une première question pour les nanotubes de carbone, qui est de savoir pourquoi, après tout, l'eau entre dans ces nanotubes de carbone, puisqu'ils sont hydrophobes. Alors, bien sûr, en partie, c'est parce qu'ils ne sont pas très hydrophobes. Quand vous avez des milieux extrêmement hydrophobes, pour faire entrer de l'eau, il faut appliquer de la pression. Mais il y a quand même une raison physique pour laquelle ils préfèrent être à l'intérieur, et cette raison, c'est l'entropie. C'est un papier de Pascal qui l'a très bien montré. En fait, quand on met des molécules d'eau dans un nanotube de carbone, on libère certaines d'entre elles de leur environnement tétraédrique et on gagne en entropie, et ce gain entropique est plus grand que la perte liée au moins grand nombre de liaisons hydrogènes. Et donc, c'est ce qu'il montre ici sur l'énergie libre. On a intérêt à mettre l'eau dans les nanotubes de carbone. Et là, avec une étude un peu plus fine, il a montré qu'il y avait certains diamètres autour de 1,2 nanomètre où il y avait quand même un gain, une prédominance de l'enthalpie où, en fait, à température ambiante, il attendait des phases de glace et des phases assez originales, puisque là, vous voyez que c'est vu du haut, ça fait des pentagones ou des hexagones. Donc, là, j'ai vraiment un petit souci, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est une nouvelle phase de glace. Bon, ça a beaucoup amusé les théoriciens. Là, vous voyez des tas de phases qui ont été prédites par dynamique moléculaire dans des nanotubes de diamètres différents. Au niveau expérimental, il y a ce joli papier de Chiacuno qui présente à la fois des résultats de rayons X, diffusion des rayons X et de RMN, donc sur des échantillons macroscopiques, où il montre d'abord que la température de transition liquide-solide diminue quand on augmente le diamètre du nanotube. Pour les petits diamètres, on reste liquide à température ambiante. Et il montre aussi, ce qui est assez amusant, qu'à partir d'un certain diamètre, quand on diminue la température, en fait, le tube se vide. C'est un effet de démouillage qui est, je pense, attribué justement à l'effet entropique, à la stabilisation entropique, puisque si on cristallise, on va perdre de l'entropie et donc l'eau préférera en fait sortir du tube. Alors je voudrais aussi vous montrer que, alors qu'il y a des études sur le sujet depuis 20 ans, que ce n'est pas si simple et qu'on peut avoir des doutes. Alors j'en profite pour citer ma chanson préférée d'Anne Sylvestre. Et les doutes, c'est lié au fait que là, par exemple, je vous montre deux expériences différentes où on ne sait pas. Là, en rouge, c'est de la spectroscopie Raman effectuée sur des nanotubes individuels, et là, c'est les résultats de rayons X. Et ils sont clairement en contradiction avec de l'eau qui est mesurée ou solide ou liquide. Donc, ça illustre aussi le fait que les expériences sont difficiles. Et les résultats sont parfois difficiles à confronter aussi. Bon, après cette introduction, je vais vous présenter en fait le premier travail qu'on a fait sur l'eau dans les nanotubes de carbone, qui consistait à étudier in situ le remplissage d'un nanotube de carbone par de l'eau par diffusion des rayons X. Et chaque fois que je vais montrer une méthode comme ça, dans la mesure où l'hydrique n'en a pas parlé, je vais commencer par introduire rapidement la méthode. Donc la diffusion des rayons X, donc les rayons X, c'est des ondes électromagnétiques. Donc Ils interagissent avec le nuage électronique des atomes. Ils ont des longueurs d'onde de l'ordre de l'angstrom, donc c'est parfait pour sonder la structure des solides et des liquides ou leur porosité. La seule loi de conservation que vous avez à utiliser ici, parce qu'on fait des transferts à énergie nulle, c'est la loi de conservation du moment cinétique. Et on définit comme ça le vecteur d'onde, qui est la différence entre le vecteur d'onde incident des rayons X et son vecteur d'onde final. On va travailler en fait dans l'espace de Fourier. L'amplitude de diffusion, c'est la transformée de Fourier de la densité électronique. Et l'intensité diffusée, c'est son module au carré. Alors, les rayons X, là, vous avez une des premières images de rayons X qui a été réalisée par deux collaborateurs de Max von Loewe, sur sa suggestion, sur un cristal de zinc blend en 1912. Et vous voyez là des pics très fins parce qu'on est dans l'espace réciproque. Le vecteur d'onde, c'est des angstroms moins 1, c'est l'envers d'une distance. Quand on a des pics fins, ça veut dire qu'on a un ordre à longue distance. Vous verrez que dans les nanotubes de carbone, où il y a une longueur latérale qui est limitée, on a des signaux qui sont beaucoup plus larges. Et là, je vous présente ce qui, je pense, est le cliché le plus célèbre de l'histoire en rayons X, que beaucoup de gens connaissent. C'est ce cliché numéro 51 de Rosalind Franklin pour l'ADN. Et j'avais préparé un exposé qui me passait même au niveau d'élèves de lycée, où on peut très simplement le lire, voir ici qu'on a deux hélices et avec l'extinction qu'il y a ici, montrer quel est le déphasage entre les hélices, trouver les distances entre les paires. En fait, on peut lire les rayons X d'une façon amusante aussi. Mais là, je vais passer à ce que nous, on a fait là en diffraction des rayons X sur des nanotubes de carbone. Alors, on les a d'abord oxydés à l'air à haute température pour les ouvrir, pour pouvoir y mettre de l'eau. Et là, je vous présente notre diagramme de diffraction, donc de référence sous vide, sans rien dans les nanotubes. Vous avez l'intensité en fonction du vecteur d'onde. On a des pics qui sont larges, ce n'est pas des pics de Bragg, mais qui sont quand même bien définis. Et en fait, c'est parce que les nanotubes s'organisent sur un réseau hexagonal bidimensionnel. Donc, on indexera les pics par deux indices de Miller. Et comme on est à des vecteurs d'onde assez petits, c'est-à-dire à des distances assez grandes, en fait, on peut ne pas tenir compte des positions exactes des atomes et utiliser une approximation homogène pour décrire la diffusion. Et dans ce cas-là, on arrive à des formules extrêmement simples. Donc ici, il faut intervenir des fonctions de Bessel. Et on peut donc faire des calculs analytiques très simples. Là, c'est la simulation de la diffraction qui marche très bien à partir de cette formule. On a trouvé qu'on avait des tubes de diamètre 7 angstrom et environ 30 tubes par fagot. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau ? Donc ça c'est une expérience de laboratoire, mais ça peut aussi être fait en synchrotron, mais on avait donc ici un système qui nous permettait de mettre les nanotubes sous pression saturante de vapeur d'eau. On envoyait les rayons X avec qui sortaient d'une anode tournante, des rayons X monochromatiques ici, et derrière on avait un détecteur 1D. De la position sur le détecteur, on déduit le vecteur d'onde KF, et KF moins KI nous donne le vecteur d'onde Q, donc on a intensité en fonction de Q. Et vous voyez que l'intensité diminue quand on augmente le temps, c'est-à-dire quand on attend, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on remplit les nanotubes. Alors pour quantifier ça, on a défini un facteur pour chaque pic qui est le ratio entre l'intensité au temps T moins l'intensité au temps 0 renormalisé par l'intensité au temps 0. Et on voit pour les quatre premiers pics comment ça évolue en fonction du temps. Maintenant, pour modéliser, on est parti déjà des résultats de dynamique moléculaire. Quand on a fait cette expérience qui était la première sur le remplissage des nanotubes, en fait, il y avait déjà 10 ans de simulations de dynamique moléculaire qui sont résumées dans ce papier. Et vous voyez qu'on peut, là c'est le centre du tube, on peut très schématiquement se dire qu'on a une première région, qui est celle-là ici, une seconde et une troisième, donc on a fait un modèle en trois couches pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis on a aussi fait le modèle le plus simple qui consiste à prendre un cylindre homogène. Là aussi, on démontre très simplement, avec très peu de mathématiques, comment le facteur de forme s'exprime en fonction de Bessel cylindrique. Et là, vous avez une simulation qui montre que selon la structuration de l'eau, on va avoir des intensités un peu différentes pour les pics. Donc, ce à quoi on a joué, c'est à rendre compte au mieux de nos données expérimentales avec ces deux modèles. Et on voit qu'on a un bon accord avec le modèle où on a un remplissage homogène jusqu'à 4% d'eau dans le tube, 4% en masse. Et ensuite, par contre, qu'on doit utiliser le modèle à trois couches pour conserver un bon accord. Et là, on a aussi le remplissage final. Donc, ce modèle à trois couches, en accord avec les simulations de dynamique moléculaire, qui ont toujours été faites à remplissage maximum. Et le fait qu'au début, on n'ait pas de structuration, mais de l'eau qui diffuse dans un cylindre, ça peut donner encore renforcer l'argument anthropique de Pascal qui avait été développé dans le cas de tube plein, puisqu'on va avoir encore plus de désordre au début du remplissage. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu par diffusion des rayons X sur les nanotubes de carbone, et ensuite on a voulu étudier par spectroscopie infrarouge comment le réseau de liaison hydrogène, dont je vous ai dit que c'était un élément clé pour expliquer les propriétés de l'eau, était modifié dans les nanotubes. On l'a fait dans ce papier. Avant de vous présenter ces résultats, je voudrais vous montrer un très joli article qu'avait de Kolesnikov et collaborateurs en 2004 par diffusion inélastique des neutrons. Vous avez donc là une densité d'état généralisé. Je vous parlerai plus de diffusion inélastique tout à l'heure, mais donc c'est une densité de mode de vibration en fonction de l'énergie. Ici, c'est les modes de libration, c'est-à-dire quand la molécule tourne autour de son centre de masse, qui dépendent évidemment beaucoup aussi des liaisons que cette molécule a avec ses voisines. Et on voit que dans le cas des nanotubes de carbone, il y a un fort amollissement de ces modes de libration. Donc, ils avaient dit qu'il y avait une dynamique anormalement molle. Ils avaient attribué ça au fait qu'il y avait des expériences à basse température, au fait qu'ils modélisaient la structure avec une chaîne d'eau avec seulement deux liaisons au centre qui contribuent beaucoup à cette partie. Alors, pour ce qui est de la spectroscopie infrarouge, donc on envoie de la lumière infrarouge et on regarde comment elle est absorbée par le matériau. Donc on voit les fréquences auxquelles le matériau absorbe et on va se focaliser sur la bande d'étirement de l'eau qui est celle-ci, qui correspond donc à ou un étirement symétrique ou un étirement antisymétrique, parce que c'est elle qui donne vraiment des informations sur les liaisons hydrogènes. En effet, si une molécule a pas mal de liaisons hydrogènes avec sa voisine, la constante de raideur à l'intérieur de la molécule va diminuer puisqu'il y a des interactions entre l'oxygène négatif ici et puis l'hydrogène positif à côté. Donc on diminue cette constante de raideur et on diminue la fréquence de la bande du mode de libération, du mode d'étirement, pardon. Et là, je vous montre des résultats obtenus sur l'eau en volume. Ça, c'est l'eau liquide en volume. Vous voyez le spectre infrarouge et qu'il est fité avec des nombres de liaisons de 4, 3 et 0 et 2. C'est ce qu'on a dans l'eau liquide. Toutes les liaisons ne sont pas à 4 puisqu'on n'est pas dans un cristal. Ou alors ici, l'eau liquide par rapport à la glace, où on voit aussi que dans la glace, justement, où toutes les liaisons sont à 4, le pic est bien décalé vers la gauche. Avant de vous montrer maintenant les résultats qu'on a eus pour les nanotubes de carbone, il faut d'abord que je vous dise ici que notre échantillon, là, ce n'était pas l'échantillon modèle qu'on a utilisé pour la diffusion des rayons X. On avait des nanotubes avec un diamètre bien défini. Mais on avait, au contraire, des nanotubes avec des diamètres allant de 0,7 à 2,1 nanomètres, ce qui est à la fois une chance et une difficulté. Et pour se dépatouiller avec les résultats, donc on a utilisé aussi cet article de Oba qui avait montré que, en faisant des isothermes d'absorption de l'eau, avec des nanotubes de diamètre 1 nanomètre et 2 nanomètres, qui avait montré que l'eau s'absorbait d'abord dans les nanotubes de plus petit diamètre. Ce qui est aussi d'ailleurs en accord avec les calculs énergétiques de Pascal. Donc là, voici nos résultats expérimentaux. Je vous les montre à deux valeurs du RH, c'est-à-dire la pression d'eau sur la pression de vapeur saturante de l'eau. 30% et puis 100%, on les a obtenus au synchrotron soleil sur la ligne L où on peut faire de l'infrarouge. Le synchrotron soleil, c'est sur le plateau de Saclay. Vous pouvez aussi faire évidemment de la diffraction, du Xanès, enfin, énormément d'expériences différentes en utilisant les rayons X. Ici, quand on voit ce spectre-là et qu'on le compare à celui de l'eau, on se dit qu'on a une partie de l'eau qui est très peu liée, à qui manque beaucoup de liaisons hydrogènes, puisqu'on est à haute fréquence, et une partie qui ressemble étonnamment à la glace. Donc on a interprété ça de la façon suivante, en disant que l'eau pelier, ça correspondait en fait aux chaînes indées dans les nanotubes de diamètre 0,8 nanomètre qui a été décrite par Humer, et que cette eau solide, c'était la glace qui est prédite par Pascal à cause du gain anthropique pour certains diamètres. Ensuite, quand on est à remplissage total, donc ces tubes sont remplis, mais on se met à remplir les gros tubes. Et on a beaucoup plus d'eau non liée, et on a aussi de l'eau qui a vraiment un aspect liquide. Donc l'eau qui a vraiment un aspect liquide, c'est celle à l'intérieur des plus gros tubes. Et cette eau non liée, en fait, c'est l'eau à la surface de la couche externe, avec typiquement une liaison hydrogène qui pointe vers le nanotube et donc qui interagit pas avec d'autres molécules d'eau. Donc voilà la vision qu'on avait à partir de la spectroscopie infrarouge. Alors, quel est l'intérêt par rapport à ce qui a quand même suscité un tel engouement pour l'étude de l'eau dans les nanotubes de carbone, qui est le transport de masse ultra rapide dans les nanotubes de carbone? Alors je reviens sur deux articles qui s'appuient justement pour expliquer ce transport ultra rapide sur les liaisons hydrogènes modifiées. D'abord l'article fondateur, celui de Humer, où vous avez des chaînes d'eau dans des nanotubes de petit diamètre, et la moindre densité de fluctuation se transmet tellement bien qu'on a un transport ultra rapide. Et puis cet article de Joseph et Aluru, où en étudiant différents types de surfaces, c'est des articles de simulation, hein, de dynamique moléculaire, il a pu montrer le rôle crucial de ces molécules d'eau qui regardent la paroi, dans la couche de déplétion près de la paroi, pour augmenter la vitesse du front d'eau. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avec nos expériences, on confirme qu'il y a bien ce type de modification du réseau de liaisons hydrogènes. Donc de ce point de vue-là, ça conforte ces articles. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une des raisons du transport ultra-rapide de l'eau. Il y en a d'autres, probablement, elles jouent toutes en même temps. Donc je vais rappeler les autres, mais que l'IDRIC a déjà présenté. Dans ces cours, il y en a un qui est l'incommensurabilité entre la structure de l'eau et le potentiel qu'elle voit quand on courbe un réseau de graphène. Il y a une friction oscillante induite par les phonons. Il y a un article qui montrait que des phonons longitudinaux pouvaient apporter une augmentation de 300% du transport. Et il y a ces études de Sophie Marbach, Clidric et collaborateurs aussi qui ont regardé les effets d'oscillation pour augmenter le transport. Et enfin, il y a le résultat très récent de Kavokin et collaborateurs sur les fluctuations, sur une friction induite par des fluctuations quantiques. Sur une friction quantique, pardon, induite par les fluctuations. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail théorique et de simulation pour comprendre les propriétés de l'eau et différentes causes possibles, sûrement qui jouent toutes probablement une partie du rôle. Et que c'est aussi une longue histoire à rebondissement, puisque le premier article, c'est 2001, et la découverte de la friction quantique par Kavokin, Anne-Laure Bocquet et Lydric Bocquet, c'est 2022. Donc là, je vais terminer sur les nanotubes de carbone en reprenant un peu ce que je vous ai dit. D'abord, on s'était demandé pourquoi l'eau pénétrait dans les nanotubes et comment elle s'y structurait. Alors, la littérature a bien insisté sur le rôle de l'entropie. Et par diffusion des rayons X, on a montré qu'il y avait, pour des nanotubes de diamètre 1,4 angstrom, à faible taux de remplissage, un remplissage homogène et une entropie augmentée. Et à plus fort taux de remplissage, la structuration prédite par les simulations de dynamique moléculaire. Enfin, pour ce qui est du réseau de liaisons hydrogènes, eh bien, il est fortement modifié comme on pouvait le penser pour de l'eau aussi confinée. C'est aussi pour ça que l'eau confinée a encore des propriétés originales par rapport à l'eau qui avait déjà des propriétés assez spéciales. Et donc, on a vu qu'il y avait de la glace à température ambiante pour les nanotubes de diamètre 1,2 nanomètre, et que pour l'eau fluide, le nombre de liaisons était diminué. Et ça, c'est une des composantes qui permet d'expliquer le transport rapide de l'eau. Voilà, donc là, je vous ai parlé des nanotubes de carbone hydrophobe. Et je vais maintenant passer à une autre sorte de nanotube qui est moins bien connue, qui sont les nanotubes d'hémoglobine hydrophile. Donc, je vous ai rapidement décrit leur structure. Donc, c'est... Je suis vraiment désolée, ça bouge. Donc, leur structure, donc, c'est un réseau, une couche externe formée par des octaèdres ALO6 et à l'intérieur des tétraèdres GEO3 ou SiO3 et des hydrogènes aussi, donc des hydroxyles dedans et dehors. Je vais vous présenter des résultats qu'on a obtenus dans les nanotubes de germanium, à base de germanium, qui sont publiés ici, et d'autres qui sont dans les nanotubes à base de silicium, qui sont en cours d'écriture. Dans un premier temps, on va regarder donc quelle est la structure de l'eau proximale, c'est-à-dire la structure de l'eau en interaction avec la paroi interne du nanotube. Avant de faire ça, je voudrais vous montrer un résultat qui a pas mal intéressé la communauté, qui, comme Lydric l'a dit dans son premier ou deuxième cours, est controversé, mais qui consiste à dire qu'entre deux feuillets de graphène, en fait, on a une nouvelle forme de glace qui est la glace carrée. Et je vais vous montrer ce que nous, on a trouvé comme forme d'eau dans les nanotubes d'hémoglobine. Alors, ouais, c'est bon, j'ai rien sauté, pardon. Alors, là, la technique qu'on va utiliser, c'est la diffusion inélastique des neutrons. Alors, les neutrons, c'est des particules qui interagissent cette fois-ci avec les noyaux et plus avec le nuage d'électrons. Ils ont le même genre de longueur d'onde que les rayons X, donc on a accès aux mêmes informations structurales. Par contre, ils ont une masse et donc ils ont une énergie qui est plus faible et qui est de l'ordre de grandeur des vibrations dans les solides. Et ça la rend précieux pour toutes les études de dynamique, phonon, diffusion de matière, etc. On va donc avoir deux lois de conservation maintenant, celle du moment cinétique et aussi celle de l'énergie. Donc, et on étudiera aussi l'énergie transférée donc, aux matériaux par le neutron. Donc on travaille là maintenant dans un espace à quatre dimensions. La fonction de diffusion, c'est toujours une transformée de Fourier, hein, mais à quatre dimensions cette fois. Et dans le cas qui nous intéresse, où de l'eau, qui, en fait, le signal prédominant, c'est celui de l'hydrogène, qui est un diffuseur incohérent extrêmement faible. Et en fait, on voit à peu près que de la diffusion incohérente, c'est-à-dire de l'autodiffusion. On regarde simplement le comportement d'un atome à l'instant zéro par rapport au même atome à l'instant T. Ici, il n'y aurait pas dû avoir de prime. Là, je vous montre une des premières expériences qui a été faite avec la diffusion élastique des neutrons, parce que c'est des techniques qui sont des techniques bien assises. Hein. Là, on fait les expériences dans le réacteur de neutrons ILL à Grenoble. Donc, la première expérience ici, où avec un cristal d'aluminium, ils avaient mesuré l'intensité en fonction de l'énergie transmise. Là, c'est l'énergie nulle. Donc, ils mesurent des modes, des phonons à énergie non nulle. Et là, ils ont tracé la courbe de dispersion, fréquence en fonction du vecteur d'onde. Ici, on a un mode acoustique. Nous, on va pas mal utiliser. Ce qu'on a principalement utilisé, voilà, c'est un spectromètre à temps de vol. Alors, le principe est le suivant. On envoie des neutrons de longueur d'onde fixée sur un échantillon, mais on l'envoie par bouffée. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un instant T à l'échantillon. Et on regarde à quel instant ils arrivent sur le détecteur. En fonction donc de la distance entre l'échantillon et le point sur le détecteur, on calcule une énergie et on a donc l'énergie du neutron final, donc l'énergie transmise à l'échantillon, et avec la position sur le détecteur aussi on calcule un vecteur d'onde et on obtient donc ce genre de diagramme énergie en fonction du vecteur d'onde. Là vous avez la diffusion élastique et là vous avez un phonon. Je vais peut-être passer. Non, c'est bon. Donc, un autre point aussi important, c'est que tous les résultats qu'on a obtenus en neutrons ont été validés et aidés aussi par de la dynamique moléculaire. Et là, donc, je vous présente d'abord le résultat de dynamique moléculaire dans le cas des nanotubes de germanium. Ici, vous avez une vue développée de la surface interne. Là, c'est la direction de l'axe du tube, et là, c'est Rθ, c'est la circonférence. Pour le nanotube sec, vous voyez, là, les groupements hydroxyles, l'oxygène et puis l'hydrogène qui a une grande amplitude de déplacement. Et sur cette carte de densité, maintenant, quand on a hydraté la première couche, on voit que les hydrogènes, maintenant, ne bougent plus parce que l'eau s'est mise, en fait, au centre des triangles définis par les groupements hydroxyles. Et elle a trois liaisons extrêmement fortes avec les hydroxyles voisins. On a une structure absolument unique de l'eau puisqu'on a des molécules d'eau qui sont localisées sur des sites triangulaires, stabilisées par seulement trois liaisons et isolées les unes des autres. Alors, ça, c'est ce que prédit la simulation. Pour vérifier que la simulation était bonne, en fait, on a mesuré tout le spectre en énergie de nos échantillons. C'est-à-dire qu'on a intégré la fonction de diffusion S de Q et de oméga sur Q. Pour le nanotube sec, pour le nanotube hydraté, on a comparé expérience et théorie, mode par mode, pour comprendre d'où venait chaque mode. On a obtenu un très bon accord. Ça, je ne vais pas le détailler ici, parce que ça prendrait 25 minutes. Mais ça a véritablement montré que les prédictions de dynamique moléculaire étaient correctes. Et autre chose intéressante au niveau expérimental, ça a été qu'on a regardé ce qui se passait en fonction de la température pour cette couche d'eau sur la surface interne de l'immogolite. Là, je vous montre la densité d'état en fonction d'énergie pour différentes températures pour l'eau en volume. On voit pour la glace qu'on a des pics bien définis, que quand on augmente la température, ça devient moins bien défini parce que le solide devient plus anharmonique. Et enfin, quand on a la transition liquide, la structuration est complètement différente. Et pour la couche d'eau, en fait, on voit qu'elle ne change absolument pas de 10 degrés K à 300 degrés K, donc en fait, elle forme un solide harmonique jusqu'à 300 degrés K. Donc c'est vraiment une couche qui est très originale. Son intérêt éventuel, c'est pas par rapport à la nanofluidique, c'est par rapport à des problématiques de photocatalyse, mais dont je ne vais pas parler ici. Comme on voulait parler de structure, de dynamique en confinement, je vais passer au nanotube de plus petit diamètre, donc où on passe d'un diamètre de 2,8 à un diamètre de 1,5 en remplaçant le germanium par le silicium pour voir ce que ça change pour la structure de la couche d'eau proximale. Et là aussi, je vous montre d'abord les résultats de dynamique moléculaire. Là, cette fois-ci, c'est de la dynamique moléculaire classique fait avec le modèle phénoménologique qui est très utilisé pour les argiles. Vous voyez ici les profils de densité radio en fonction profil de densité en fonction du rayon pour différents taux de remplissage du nanotube pour l'eau. Là, c'est le centre du tube et là, c'est la paroi. On voit qu'on commence par remplir la première couche. Après, la deuxième couche remplit un peu. Ensuite, première et deuxième couche sont remplies. Ensuite, il y a plus d'eau au centre du tube. Et si on regarde ici sur ces coupes de nanotubes qui sont effectuées en prenant une coupe qui passe par le centre du nanotube et qui a une certaine épaisseur, donc ça c'est le diamètre du tube et là c'est sa hauteur, on a mis les probabilités de densité atomique. Vous voyez là c'est le nanotube avec ses groupements hydroxyles ici, et on voit que l'eau à faible taux de remplissage se met entre les groupements hydroxyles dans les sillons qui sont vides là, et que ça va même jusqu'à la deuxième couche. Une partie de la deuxième couche aussi est structurée. Et bien sûr, l'eau au centre du tube ne l'est plus du tout. Donc là, on a une vision d'une eau qui est structurée selon l'axe Z à cause de la présence de ces sillons. Pour le prouver, on a pu utiliser dans ce cas la diffusion des rayons X. Alors, je vous montre l'image d'un nanotube sans eau. Vous avez une période qui est 8,45 angström. Et en diffraction, ça se traduit par l'apparition d'un pic qu'on appelle 0,02 à 4 pi sur t, dont l'intensité en fait est la transformée de Fourier de la projection de la densité électronique sur l'axe Z. Donc ça, c'est ce qu'on simule et ça, c'est ce qu'on mesure. Donc on mesure bien l'existence de ce pic. Quand on ajoute de l'eau, on voit bien que la densité électronique projetée selon Z va être modifiée. Et donc, cette intensité va être fortement modifiée, et c'est bien ce qu'on observe. Hop. Pardon. Voilà, c'est bien ce qu'on observe. On voit une diminution de l'intensité jusqu'au moment où on se met à remplir le centre du tube, où là l'eau n'est pas structurée, donc où ça ne joue plus. Mais au début, donc, on a une forte diminution d'intensité qui est liée à cette structuration de l'eau le long de l'axe Z. Et expérimentalement, on a chauffé notre échantillon à 200 degrés Celsius, alors cette fois-ci sur une ligne de diffraction cristal sur le synchrotron Soleil. Et vous voyez qu'on observe une forte augmentation de l'intensité, donc en complète accord avec ce que prédit la simulation. Donc l'eau est bien structurée suivant Z dans ces nanotubes. Par contre, comment est-ce qu'on peut comparer ça par rapport aux nanotubes à base de germanium? Alors là, je vous montre l'image qu'on a déjà vue pour les nanotubes de germanium, avec l'eau parfaitement bien ordonnée dans les sites triangulaires, définis par les hydroxyles. Et là, ce qu'on observe pour les nanotubes à base de silicium, alors certaines molécules d'eau sont dans la même configuration, mais celle-ci, par exemple, a trois liaisons avec les hydroxyles, ici une liaison avec celui-là, et là pour l'oxygène, deux liaisons, une là, et un hydrogène qui pointe vers l'intérieur. On a en fait cinq schémas d'absorption différents pour l'eau, et on ne peut plus du tout parler d'une eau bien structurée, cristalline. C'est de l'eau liquide, mais qui est structurée suivant Z. Et maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus pour la diffusion de cette eau dans les nanotubes d'imogolite. Et pour ça, on a utilisé la diffusion quasi-élastique des neutrons. Alors, si on regarde la fonction de diffusion S de Q et de oméga, en fonction d'énergie, donc il y a un pic élastique qui correspond à l'énergie nulle, mais on peut avoir aussi, tout près de l'énergie nulle, ce qu'on appelle du quasi-élastique. Et dans le cas qui nous intéressera avec l'hydrogène, en fait, c'est un signal quasi-élastique incohérent qu'on va mesurer. Et si, par exemple, on prend l'exemple du mouvement brownien, qu'on écrit sa fonction d'autocorrélation, avec quelques petites approximations mineures, on arrive à la seconde loi de Fick, dont une solution physique pour le cas qui nous intéresse est connue. Ça permet de calculer la fonction de diffusion quasi-élastique incohérente. Et c'est une lorentzienne dont la largeur est proportionnelle à dq2, où d est le coefficient d'autodiffusion de l'eau. Donc, si on voit ce type de lorentzienne et qu'on mesure sa largeur, on va avoir le coefficient d'autodiffusion de l'eau. Par contre, si je prends l'exemple d'une diffusion balistique, c'est-à-dire sans frottement, je vais avoir une fonction de diffusion extrêmement différente par sa forme. Et donc, on voit que l'analyse du quasi-élastique, de sa forme, de sa dépendance en Q, etc., ça donne en fait des informations vraiment détaillées sur le type de diffusion qu'on étudie. Alors, on a étudié deux échantillons dans nos expériences, un échantillon sec et un échantillon rempli à 12% en masse d'eau. Comme c'est des expériences très très délicates, c'est difficile de garder les imogolites hydrophiles sèches et c'est difficile de contrôler le taux d'hydratation. Donc, en plus de la mesure de prise de masse, on a vérifié qu'on avait bien 12% d'eau ici en faisant de la diffraction des neutrons. La différence de fond entre les deux échantillons, c'est lié à la diffusion incohérente par l'hydrogène et ça nous donne bien la bonne quantité d'eau. Là, voilà les coupes qu'on a obtenues. Là, la fonction de diffusion ici intégrée sur Q en fonction de l'énergie à différentes températures. Et pour qu'on voit mieux l'aspect diffusif, je vais vous présenter plutôt la susceptibilité qui revient à normaliser la fonction de diffusion par le facteur de Bose et donc à normaliser les phonons. Et on voit bien donc qu'à 250 K, on a ici un mode de translation de l'eau. Là, on a la diffusion qui commence à augmenter. Et puis à 300 K, la diffusion est complètement dominante. Alors là, je vais vous présenter l'analyse de la fonction de diffusion à 300 K. On l'a affinée avec une gaussienne qui rencontre de la résolution et deux lorentziennes, dont les largeurs sont différentes dans un facteur 10. Celle-là a une largeur faible en milliev, donc ça correspond à des temps longs et donc à des mouvements lents, et celle-là correspond à des mouvements beaucoup plus rapides. Hop. Si maintenant on a refait la même analyse, cette fois sans intégrer en Q, donc pour chaque valeur de Q, et alors Et on a vu quelle était la dépendance en Q donc, de cette deuxième Lorentzienne. Et on voit qu'on peut la fitter au départ par un terme en DQ2, qui en première approximation est valable même à une dimension. Pour les petites valeurs de Q, parce qu'on est en train de regarder quelque chose à une dimension, on n'a plus exactement la formule à trois dimensions. Et donc, on a trouvé un coefficient de diffusion qui est de 2,6 10 moins 5 cm2 par seconde moins 1, c'est-à-dire à peu près le coefficient de diffusion de Lobulk. Alors, la question qu'on s'est posée, évidemment, après, ça a été de savoir quel type d'eau on regardait, parce que... Pardon, j'ai vraiment un petit souci avec ce truc. Donc, quel type d'hydrogène on regardait ? Parce qu'on a vu deux signaux, mais en fait, on a plusieurs types d'hydrogène qui peuvent contribuer. On a les hydrogènes de la molécule d'eau, mais on a aussi les hydrogènes des hydroxyles internes et externes sur les surfaces des nanotubes. Alors, il y a une autre équipe qui a fait la même étude que nous un peu avant, et qui avait conclu que, en fait, la Lorentzienne étroite venait de l'eau, et la Lorentzienne large correspondait à des rotations des hydroxyles. Pour nous, on a nos simulations de dynamique moléculaire, donc nous disaient que, avec la dynamique moléculaire, on calcule ce qu'on veut, donc on a calculé la fonction de diffusion pour l'eau et la fonction de diffusion pour les hydroxyles, les hydrogènes sur le tube, et on voit que les mouvements des hydrogènes sur le tube sont trop lents pour être mesuré sur le spectromètre qu'on utilisait, donc on ne peut pas les voir. Et c'est effectivement ce qu'on a corroboré en mesurant l'échantillon sec, où on voit qu'il n'y a absolument pas de diffusion mesurable sur l'échantillon sec. Donc on en est arrivé à la conclusion que les deux Lorentziennes, en fait, venaient de l'hydrogène de l'eau, simplement, et qu'on n'avait pas à prendre en compte les hydroxyles. Et donc, évidemment, après, on arrive à des conclusions très différentes de l'autre article. Donc, revenons encore à la dynamique moléculaire. Si je prends maintenant donc, une molécule d'eau ici sur la première couche d'hydratation et que je regarde comment elle se déplace selon l'axe du tube en fonction du temps, ben, on voit qu'elle reste à peu près toujours à la même hauteur. Tandis que si je prends une molécule d'eau à l'intérieur, à moins de 6 angstroms du centre du tube, là on voit qu'elle diffuse à longue distance selon l'axe Z. Là, il y a une autre image qui... Hop, pardon. Il y a une autre image qui montre ça ici. Vous voyez, on a regardé les hydrogènes de 10 molécules de la première couche ici d'adsorption près du tube et on voit qu'ils restent très localisés en Z. Et puis des hydrogènes de molécules à l'intérieur et on voit qu'elles diffusent le long de l'axe du tube. Alors c'est une vue là qui peut être trompeuse. Hein. On ne dit pas qu'il y a aussi des échanges, bien sûr. C'est-à-dire de l'eau qui est à l'intérieur peut aller un tout petit peu sur la paroi, mais il en ressortira, donc il y aura quand même une grande diffusion. On a tracé le déplacement carré moyen, c'est-à-dire la valeur moyenne du déplacement U carré pour les eaux qu'on va appeler lentes et rapides, donc en fonction du temps, en dynamique moléculaire. Et le modèle d'Einstein à une dimension nous dit qu'il varie comme 2 fois le facteur de diffusion fois le temps. Et c'est ce qu'on a reporté ici, ça marche très bien. Donc on voit que les molécules d'eau rapide ont un facteur de diffusion de 3,2 10 moins 5 cm2 seconde moins 1. Et en fait, c'est en bon accord avec ce qu'on a mesuré, surtout si on a en tête que le modèle qu'on a utilisé pour l'eau, le modèle SPCE, c'est un modèle qui a tendance à surestimer les coefficients de diffusion. Alors maintenant, le dernier point qu'on a voulu regarder, c'est ce que prédisait la dynamique moléculaire pour le S de oméga qu'on a fait mesurer expérimentalement. Donc là, c'est nos résultats expérimentaux sur les deux Lorentziennes. Et là, la simulation de ce S de E pour les hydrogènes dans la première couche d'hydratation et pour ceux à l'intérieur du tube. Et on voit, ça passe vite. Donc pour cela, on voit qu'on a une seule Lorentzienne et avec une largeur qui est en très bon accord avec l'expérience. Et pour l'autre, on a deux Lorentziennes parce que les molécules à l'intérieur peuvent aussi faire des excursions sur le bord du tube. Et celle qui correspond au mouvement rapide à cette largeur qui est aussi en très bon accord avec l'expérience. Donc, ce bon accord expérience-simulation, ça nous fait penser qu'on a su bien décrire l'eau dans les hymogolites. Et je vais résumer l'ensemble des résultats que je vous ai présentés. Donc, pour la structure de l'eau proximale, donc en utilisant de la dynamique moléculaire couplée à la diffusion inélastique des neutrons, pour les nanotubes à base de germanium, on a une couche d'eau solide jusqu'à 300 K, qui a une structure très particulière. Et pour les nanotubes à base de silicium, on a une couche d'eau liquide, mais qui est structurée selon l'axe Z. Et c'est un résultat original en ce sens que ce type d'étude a déjà été fait sur pas mal de mésoporeux, mais la plupart des mésoporeux ont une structure amorphe pour leur surface. Et l'intérêt des nanotubes d'immogolite, leur originalité, c'est qu'ils ont une structure cristalline. Donc on peut avoir ce type d'effet justement de mise en ordre sur la première couche. Et pour ce qui est de la diffusion, donc on a vu qu'il y avait deux types d'eau. L'eau de la première couche, qui a principalement une diffusion restreinte sur la circonférence, qui est assez lente, et l'eau de la deuxième couche, qui hélas ne correspond qu'à 5% en masse des 12% d'eau qu'on avait mis, mais qui elle diffuse à longue distance avec un coefficient de diffusion qui est à peu près celui de l'eau en volume. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu tous ces résultats, je vais arriver à ma conclusion générale. Donc, d'abord, j'ai vraiment un gros souci avec ce truc. Voilà. D'abord, j'étais venue ici pour vous parler de méthodes globales. Donc, j'espère que je vous ai montré que c'était intéressant, les méthodes globales. Donc, je reprends un peu ce que j'ai montré, les résultats de Chiacchino, qui donnait le diagramme de phase de l'eau dans les nanotubes de carbone en fonction de leur diamètre par diffraction des rayons X et aussi par RMN. Nos résultats sur la structure de l'eau, que ce soit dans la structuration dans les nanotubes de carbone ou la structure dans les nanotubes immogolites. Les informations qu'on peut obtenir sur la modification du réseau de liaisons hydrogène ou par diffusion inélastique des neutrons, comme l'a fait Kolesnikov, ou comme on l'a fait par spectroscopie infrarouge. Et enfin, nos résultats que je viens de vous montrer sur la diffusion de l'eau dans les nanotubes à base de silicium, par diffusion quasi-élastique des neutrons et dynamique moléculaire, on voit qu'il y a seulement l'eau au centre qui diffuse très rapidement, aussi vite que l'eau bulk, disons, le long de l'axe du tube. Ce n'est pas les coefficients de diffusion, bien sûr, des nanotubes de carbone. Alors, je voudrais insister sur un point que j'ai un peu mentionné, mais c'est sur le fait que les expériences dans ce domaine sont particulièrement difficiles. Et c'est sûrement... Alors, je ne dis pas ça du tout par rapport aux gens des simulations numériques, Anne-Laure, mais il y a beaucoup de publications de simulations numériques et peu de publications expérimentales, parce que souvent, on se casse les dents pendant 3-4 ans à essayer d'avoir, par exemple pour les expériences macroscopiques, des échantillons qu'on maîtrise en termes de phase parasite, de distribution de diamètre. Ça, c'est un vrai casse-tête, par exemple, avec les nanotubes de carbone, surtout ceux d'immogolite qu'on synthétise à plus basse température sont bien plus maîtrisés. Et puis aussi parce que l'interprétation des résultats n'est pas directe et comme on l'a vu, on doit s'appuyer ou sur la modélisation ou sur des simulations numériques. Et pour ce qui est des études sur des objets individuels, ça a nécessité dans certains cas le développement de dispositifs originaux. Sinon, il faut maîtriser la façon de faire une étude sur un seul nanotube. Tout ça, c'est des expériences qui sont vraiment des expériences de pointe. Et puis, je voulais aussi dire, et ça illustre le fait que les expériences sont difficiles, qu'il y a pas mal de points qui ne sont pas résolus au niveau expérimental, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure sur la contradiction, cette contradiction sur le diagramme de phase de l'eau confinée. Si on essaie de comparer aussi donc les études sur nano-objets individuels et sur assemblées macroscopiques, alors évidemment, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sur assemblée microscopique, il y a un aspect statistique. Donc l'avantage, c'est qu'on va gommer un nano-objet pas représentatif, un peu anormal. Mais évidemment, et c'est exactement la contrepartie de l'avantage, s'il y a des nano-objets qui ont des propriétés originales mais qui sont en faible quantité, ben on va les rater. Je voulais insister aussi sur le fait que certaines méthodes expérimentales sont utilisées avec les deux types d'expériences, par exemple la diffusion Raman. C'est pas exclusif, il n'y a pas des méthodes expérimentales qu'on peut utiliser que dans un cas. Et enfin, alors c'est un peu naïf, mais j'ai pris une expérience imaginaire de mesure de flux au travers d'un nanotube de silicium, donc comme vous le voyez là. Nous, ce qu'on a vu, donc, c'était que la couche d'eau proximale en première approximation donc, ne diffusait pas selon Z, tandis qu'il n'y avait que l'eau centrale qui diffusait. Donc maintenant, si j'imagine quelqu'un qui mesure le transport de l'eau au travers d'un nanotube individuel, ben, il ne connaîtra pas cette couche d'eau immobile, donc il va se tromper dans la détermination du coefficient de diffusion. Par contre, s'il connaît la couche d'eau immobile avec une autre expérience, il va déterminer un coefficient de diffusion sur toute la longueur du tube. Et ça me permet ici d'arriver au dernier point que je voulais aborder, qui est le fait qu'il y a aussi des effets d'échelle qu'il faut prendre en compte dans les expériences. Quand on étudie des choses par diffusion des neutrons, en fait, on est à petite échelle, à des temps courts et à des distances courtes. Et là, dans ce très joli papier de Ferdeghini et collaborateurs, sur des liquides ioniques, ils ont montré qu'à l'échelle locale, il y avait deux temps de diffusion, selon qu'on était dans des domaines agrégés ou pas agrégés. Alors ça, c'est des mesures qu'ils ont faites par diffusion quasi-élastique des neutrons. Et ensuite, quand ils ont fait de la RMN en gradient de champ, ils ont trouvé que pour diffuser avec ce milieu complexe, ben, on avait un coefficient de diffusion qui était bien plus petit. Donc à grande échelle, on a souvent des coefficients bien plus petits que ceux qu'on mesure par diffusion des neutrons et l'impression d'avoir des incompatibilités entre expériences. Et idéalement, ce qu'il faut faire et ce qu'on avait essayé de faire avec Pierre Lévitz, c'est faire des expériences à plusieurs échelles. Donc il y a celle qu'on a faite ici à faible temps et à faible distance par diffusion quasi-élastique des neutrons. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe par RMN, par relaxométrie RMN, par RMN en gradient de champ, c'est-à-dire d'aller à plus grandes échelles. Par exemple, on peut imaginer que peut-être à des plus grands temps, on va avoir des échanges très importants entre la couche d'eau proximale et la couche d'eau interne et que tous les résultats seront différents. Et donc, si on arrive à faire l'ensemble des mesures de l'échelle locale à l'échelle macroscopique, que ce soit sur des échantillons macroscopiques ou individuels, mais cet ensemble de mesures, là, on aura vraiment une vision complète du phénomène de transport, puisqu'on aura le flux vraiment observé au travers de l'objet, mais aussi les phénomènes physiques qui se produisent à l'échelle locale. Et je vais terminer par ça en vous remerciant.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.